Je suis avec Leonardo Di Constanzo, buongiorno.
Salve, bonjour.
Qui vient d'arriver des journées cinématographiques de Solar à Genève pour en fait la présentation du film au cinéma des Grütli, l'Intrusa qui a été présentée à la quinzaine à Cannes.
Oui.
Et l'Intrusa, ça nous plonge dans un milieu qui est assez méconnu pour le grand public. On se retrouve avec des gens qui sont défavorisés, qui sont en fait liés à une femme qui se voue à la médiation sociale dans le contexte de la Camorra. Mais la Camorra n'est pas le sujet du film. Le sujet du film, ce sont ces personnes dont s'occupe cette femme. En fait, Giovanna, interprétée par Raffaella Giordano. Oui. Comment est né ce projet de l'Intrusa?
Parce que depuis très longtemps, je voulais faire un film sur ce monde qui est effectivement un peu méconnu, mais c'est le monde des gens qui s'occupent des autres. Voilà, des gens des bénévoles. Parce que je pense que ça, en Italie, mais je pense un peu dans tous les pays occidentaux, il prend de plus en plus de place. C'est-à-dire que ils ont un rôle dans les sociétés contemporaines qui est très important, mais qui n'est pas raconté.
Et pas reconnu parfois, non?
Peut-être, oui, justement, parce que c'est le fait qu'on ne le raconte pas, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu, de quelque manière. Dans le sens que c'est. Moi, je pense que c'est des lieux, c'est des gens qui, comme ils sont en contact avec le besoin, soit avec le besoin, soit avec des gens qui sont souvent au bord de la loi.
Marginalisés.
Donc, eux, ils se posent beaucoup de problèmes, des problèmes d'inclusion. Comment on fait? Comment on fait, par exemple, comme dans mon film, comment on fait quand on est souvent face de quelqu'un qu'on considère comme le danger? Ah. Voilà. C'est un peu ça le sens du film. Moi, la Camorra, moi, j'ai fait toute la grande partie de mes films, je l'ai tous tourné à Naples. Et souvent, la Camorra, elle est présente, mais elle n'est jamais au centre.
C'est partie, en fait, de l'atmosphère aussi,
c'est
du décor.
Peu, oui, c'est comme... c'est pas tellement le décor, c'est comme dans les films, il y a les bons et les méchants. Souvent, dans les films, il y a les bons et les méchants. Mm-hmm. Chez nous, les méchants, c'est la Camorra, donc... Parce que c'est le mal en général.
Donc là, on est aux côtés des gens qui sont confrontés à la Camorra, justement,
qui se retrouvent. Qui vit à côté. Qu'est-ce que ça veut dire avoir. Être dans ces territoires de limite, comme ça, dans lesquels l'influence de la Camorra, ça se fait sentir, parce que c'est comme c'est à la marge de la ville, donc la société, elle est lointaine. Donc, c'est dans ces territoires-là, dans les territoires vierges, la Camorra, évidemment, elle a beaucoup plus de poids. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, aller vivre là? Et donc, qu'est-ce que affronter les questions quotidiennes? Et donc, je suis allé beaucoup visiter, parler avec les gens.
En immersion.
Au travail. Hein?
En immersion, un peu.
Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'amis qui font ça. Donc, je suis allé pour écouter leurs histoires.
Et leurs difficultés au quotidien, peut-être?
Oui, leurs difficultés. Surtout comment ils affrontent les difficultés. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand à une personne qu'on veut sauver, mais il y a quelqu'un qui...
Il y a un dilemme.
Oui, c'est un peu un dilemme. Mmh. Ils sont continuellement confrontés à ça. Continuellement, tous les jours, ils sont confrontés à comment on fait quand il y a quelqu'un qui demande de l'aide, qui est là pour demander de l'aide, qui ne sait pas le demander, en plus. Parce que souvent, c'est des gens qui ne savent pas demander. Hein, et qui prétendent, surtout des gens qui sont sortis de la Camorra, qui sont dans un milieu très proche de la Camorra. L'idée de demander quelque chose, ça fait pas partie de leur horizon.
Donc, ça s'est ressenti comme une trahison, d'une part aussi, non?
Non, ça c'est l'idée de la trahison, c'est beaucoup plus... Non, c'est pas tellement ça. Par rapport à soi-même, vous dites non, mais parce que c'est dans un univers de violence, ou dans des relations qui sont basées sur la force, on ne demande pas, on prend. Voilà. Donc c'est le cas de Maria. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est dans un état de besoin, c'est quelqu'un qui est en train de probablement de sortir de l'emprise de la Camorra, donc elle se rend dans ce lieu d'accueil pour des gamins et demande d'être hébergée. Mais on ne sait pas si elle demande vraiment de l'aide ou pas. Ça, c'est seulement Giovanna qui le comprend, qui sent, qui a l'intuition que cette personne est en train de demander de l'aide sans le demander vraiment. Voilà. Évidemment, les autres usagers de ce centre, de ce lieu d'accueil, de loisirs pour les gamins, pour les mamans, etc., etc., se sentent envahis parce que comme ils la connaissent, qui vient de ce monde-là, donc ils disent voilà, nous on est un lieu de résistance contre ce monde-là.
Comme une sorte d'oasis, non?
C'est une sorte d'oasis. Voilà. Oui. C'est un lieu dans lequel on montre, en général, dans ces lieux-là, on essaie de montrer, plutôt que de parler, d'expliquer, on montre que ça existe des autres relations humaines qui sont basées sur l'être ensemble, sur prendre des décisions ensemble, de faire des choses ensemble, et pas sur la force, et pas sur la... sur la collaboration. Et donc, c'est ces femmes-là qui sentent d'avoir choisi, disons, un camp, en étant dans cet espace, elles sentent que ce camp, il est envahi par quelqu'un qui peut être en danger. Voilà, c'est ça le...
Qui faisait partie d'un autre camp.
Qui faisait partie de l'autre camp. Mmh. C'est ceux qui, comme on dit dans le film, au bout d'un moment, c'est qui fait partie du camp des gens qui... sont les patrons des rues et des places du quartier.
Alors on a mentionné la personne qui fait la médiation sociale, oui. Giovanna, interprétée par Raffaella Giordano.
Exactement.
Qui en fait est danseuse et chorégraphe.
C'est une danseuse et chorégraphe.
Pourquoi ce choix, hein?
Mais parce que pour toute une série de raisons, pendant que j'écrivais, petit à petit, je me construisais le personnage, même physiquement, et j'avais cette idée-là, et qui avait cette attitude, même physique et corporelle. C'est quelqu'un qui avait une espèce de distance, un peu de. C'est quelqu'un d'assez austère. Quand j'ai vu Giovanna, quand j'ai vu Raphaël, ça m'a tout de suite, c'est comme si un rêve prenait forme. Et puis, même en travaillant, parce que je suis dans la première version du scénario, c'était un scénario comme c'est une première version. Il y avait beaucoup de dialogues. La première version vraiment qu'on a fait, parce que comme c'est un fait divers, c'est-à-dire l'histoire dans laquelle l'histoire qui est tirée d'une vraie histoire.
Ah. Qui s'est déroulée à Naples.
Qui s'est déroulée à Naples, dans un centre comme ça. Mmh. Et donc, quand on m'a raconté cette histoire-là, j'ai cru voir dans cette histoire qui m'était racontée que j'y avait des éléments de la tragédie, quoi, de la tragédie grecque. Et parce qu'il y avait cette maman à l'intérieur de ce centre et les autres c'était rebellés contre la présence. Et donc c'est la personne, c'est la Giovanna, la vraie Giovanna qui m'a raconté l'histoire. Et donc c'est voilà. Et donc c'était qu'est-ce que je fais pour qu'un fait divers ça devienne une tragédie, de la faire sortir l'aspect tragique. C'est comme dans le théâtre, il faut mettre beaucoup de dialogue. Donc il y avait beaucoup de dialogue parce que chaque personnage, chaque du film et du récit, s'expliquait beaucoup sur les raisons que. Comme dans le théâtre. Si on prend le théâtre classique, il y a des monologues tout du long où tout le monde explique pourquoi il fait une choix. Et donc, en soi faisant, montre la vision du monde. Et donc, la première version, c'était comme ça. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que c'était très, très, très compliqué au point de vue cinématographique. Et on est arrivé à une épuration progressive des dialogues. Donc cela, c'était très compliqué avec les acteurs, parce que les acteurs, ils avaient donc tous les acteurs, ils avaient très très peu de dialogue, de phrases, de répliques pour pouvoir raconter le personnage.
Et son point de vue.
Et voilà, voilà. Donc tout ça se passait, ça devait pas se passer par les mots, mais par le corps.
Les gestuels.
Par la gestuelle. Donc par la position du corps, par la réaction.
Même le regard.
Du regard, etc. Mmh. Donc quelqu'un qui a travaillé sur le corps comme Giovanna, c'était parfait.
Mmh. Il y a une question qui me taraude, c'est que la plupart des cinéastes disent qu'il est difficile de jouer avec soit les enfants, soit les animaux. Et là, il y a les enfants. Comment ça s'est passé concrètement au niveau de la direction?
Mais ça, moi, je trouve que c'est des acteurs extraordinaires. Si c'était que des enfants, ça aurait été génial. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué la gestion. Mm-hmm. En plus, quand ils sont des gamins un peu comme ça, un peu, disons, poivrés, comment dire, un peu vivaces, vivaces, comme on dit en italien.
Oui, énergiques.
Énergiques, oui. C'était un peu, mais en même temps, c'est très amusant en même temps parce que comme c'est ils inventent continuellement.
Même sur le tournage.
Oui, mais nous on a un peu parce que dans le sens que c'est, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux en amont. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai continué l'écriture. Le film il est déjà fait, il y avait déjà un scénario, il y avait tout ça, mais quand j'ai commencé à travailler les acteurs avec les gamins ou même avec les adultes, eux ils apportent des choses. Mm-hmm. Donc pendant qu'on fait des essais, ils improvisent, et donc cette improvisation il devient le nouveau scénario. Voilà, et une fois que c'est ça, c'était, mais puis comme on est dans un, comme ils ont appris cette méthode-là, cette méthode d'improvisation à l'intérieur d'un canevas très très serré, ça se reproduit même au moment du tournage.
Donc c'est un processus continu.
Oui, c'est beau parce que par exemple il y a une scène quand la petite Rita elle est introduite dans l'atelier de cyclo, non? Mm-hmm. Il y a un gamin qui lui tend la main pour que dit voilà, je m'appelle Ciro, bienvenue, ou quelque chose comme ça. Dans le scénario qu'on avait préparé, c'était écrit qu'elle devait répondre à la main, c'est-à-dire elle devait serrer la main à Ciro. Là, quand on a tourné, comme elle avait compris le rôle du personnage qu'elle devait dans l'histoire, elle l'a regardé avec un air un peu distant comme ça, elle n'a pas répondu, ce que j'ai trouvé génial. C'est peut-être elle l'avait fait ce matin-là parce que pendant qu'on préparait la scène, l'autre gamin lui avait fait quelque chose, voilà. Mais ça m'a été très 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 bien pour moi pour le film. Donc c'est-à-dire que ce travail-là, tout ça se fait parce que on a beaucoup travaillé en amont.
Il y a une dimension, une tonalité très documentée, très réaliste,
oui,
qui avoisine en fait au documentaire. C'est voulu, n'est-ce pas? Puisque c'est un fait divers, oui, qu'en plus ce sont des gens, il y a eu un travail en immersion. Oui. Cette dimension documentaire, elle est recherchée.
Oui, mais en même temps, tout est écrit. Il y a très, très peu de choses qui ont été faites pour la première fois.
Improvisées,
il n'y en a pas. Pratiquement, enfin, il y a deux, trois scènes qui sont faites comme ça. Mais puis le reste, elle est tout répété et écrit et redevenu après le scénario. Donc, c'est il y a quelque chose qui a du documentaire, donc de la vérité.
Parce que la
manière comme j'ai de travailler, c'est de choisir des gens qui sont qui connaissent ce milieu. Mm-hmm. Même par exemple les gamins, c'est tous des gamins qui connaissent ces lieux-là. Mm-hmm. Ils connaissent soit les quartiers, soit les centres de loyers, les lieux d'accueil, les mamans pareil. Les gens qui sont les assistants de Giovanna, c'est des gens qui font, en général, qui font ce travail-là. Mm-hmm. Mais ce qui est pour moi c'est très important, c'est que chacun interprète soi-même. Mm-hmm. C'est-à-dire que chacun doit interpréter quelqu'un d'autre, mm-hmm, qui ne sait pas lui. Mm-hmm. et qui peut donc, ça me soulage, dans le sens que je ne demande pas aux gens de me raconter leur vie, qui est souvent pas forcément, qui peut être un peu délicat pour eux, mais de mettre tout ce qu'ils savent, tout eux-mêmes, dans des autres personnages. Voilà. Donc ça me...
Donc il y a un côté thérapeutique pour eux.
Je ne sais pas si... En tout cas, je crois que c'est pour moi et pour le spectateur aussi, parce qu'il sera, il risque pas de se trouver face à la pornographie sociale, quoi. Parce qu'il y a quand même un décalage, et ce décalage, on le sent. Enfin, je pense, j'espère, en tout cas.
Alors, ce qui intrigue, parce que, par exemple, on sait que en Calabre, il ne faut pas parler de la tringuette, hein, et ceux qui en parlent, c'est... Hein, en général, on les fait taire.
Oui.
Quelle était la réaction en Italie, en particulier, même si la Camorra reste un contexte et non pas le protagoniste, quelle était la réaction, la réception du film ?
Mais d'abord, la dringue, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est quelque chose d'encore plus... C'est très mystérieux, effectivement, c'est très fermé, c'est très difficile.
Et les rares personnes qui ont voulu parler ?
Ouais, voilà. Ça, c'est deux structures complètement différentes. La Camorra, c'est un peu plus... C'est napolitain. C'est, si tu parles de moi, voilà. Voilà. Il y a des séries télé, pour eux, ils sont très contents.
Ah oui.
Ah oui. Ils sont très contents. Super.
Donc, c'est...
Ça les arrange. Enfin, ils nous gissent leur vie et ils disent, voilà, j'ai une vie qui ça vaut la peine d'être racontée, quoi.
Et là, il y a un film sur... voilà, donc c'est bien.
Ah bah ça a été toujours comme ça. C'était depuis l'époque de Parrain, ça a été toujours comme ça. On a retrouvé des villas qui étaient... Il y a un villa à côté de Naples qui était fait exactement sur le modèle de Scarface, de la villa de Scarface. Ils avaient été pris, c'était exactement le même. Mais donc la Camorra, vraiment, c'est comme une espèce d'éponge. C'est comme une espèce de... C'est peut-être plus terrible. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'attention à le raconter. Parce que dès qu'on le raconte, on risque de lui rendre service.
C'est une éponge dans le sens que...
Ça absorbe, ça utilise. Pour eux, c'est... Moi, je pense que beaucoup de récits qui se font avec la Camorra, eux, ils utilisent à leur compte. Parce que c'est comme... Ça risque de... Et ça, tous les scénaristes le savent.
Que c'est comme une carte de visite, de la publicité.
Oui, mais parce que Mais tous les scénaristes, ils savent que dès que tu racontes, après les expériences qu'ils ont fait avec le cinéma américain, etc., que ça a été un peu repris par la Camorra, tous les personnages, donc avec la manière de s'habiller, les maisons, etc., etc. Ils aspirent le cinéma, ils s'aspirent du cinéma. En plus, souvent, ils trouvent confirmation.
De leur conviction.
Bah oui. Ma vie, parce qu'en général, parce que c'est l'effet pervers du cinéma. Parce que le cinéma, il a pour cinéma ou pour pouvoir fonctionner, il a besoin de l'identification. Et si cette identification entre le spectateur et le personnage n'est pas bien gérée, il risque de faire des dégâts. Et donc ça, c'est filmer le mal, en tout cas, les méchants, c'est toujours un problème. Et si on ne fait pas attention...
C'est à double tranchant.
Bah oui, non, y a un seul tranchant, pas double, c'est un seul. Ça risque complètement de se retourner contre les... Alors, quand on est un grand réalisateur comme Matteo Garrone, il n'y a pas de risque, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, voilà, qui réfléchit, et tu sors du cinéma, quand tu vois Gomorra, que tu sens la pudeur des camorristes. Tu n'as pas envie de les voir.
Mais ça n'a pas plu aux camorristes.
Ça, je ne crois pas.
Ah bon ? Parce qu'il semblerait qu'il ait quand même des menaces de mort sur sa personne, non ?
Lui ?
Oui.
Non.
Non ?
Non, jamais. Non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas.
Je ne sais pas parce que Fabio Loverso, qui était donc rédacteur en chef et après directeur de journal, l'avait fait venir.
Oui.
Fabio Loverso, qui est sicilien, il l'avait fait venir pour une conférence. Et apparemment, tout était très, très orchestré pour éviter tout risque de...
Mais parce que peut-être lui, justement, parce que comme peut-être il a été, il a eu des menaces de mort, peut-être, justement, il les a plein. Enfin, je suis pas au courant de ça, mais ça confirme ce que je suis en train de dire. Parce que ça lui, ça leur plaisait pas.
Et là, en parlant du risque justement du cinéma qui peut se retourner contre le créateur, là, c'est le professeur de cinéma qui parle. Non?
Là, moi,
oui.
Je ne sais pas, je suis professeur de cinéma, c'est un peu
à Paris
trop... c'est vrai que je... Mais plutôt que du professeur, je travaillais aux ateliers Baran pour longtemps. C'est des choses que je... C'est une école de cinéma documentaire. Mais en général, le travail que je fais, c'est un travail d'accompagnement.
Dans la création.
C'est juste comment dire, à quelqu'un qui renvoie la balle. C'est comme un entraîneur de tennis qui renvoie la balle de l'autre côté. Mais c'est pas en tant qu'enseignant, mais c'est quelqu'un qui t'accompagne. Et donc, c'est une chose qui m'aide. C'est vrai que ça, que pour aider les autres, il faut un peu réfléchir, surtout essayer de comprendre pour leur envoyer des bonnes questions. Il faut s'interroger effectivement quel type de cinéma eux, quoi. S'agit pas de leur imposer, de dire ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire, mais leur poser les bonnes questions pour que eux ils donnent les réponses à leur manière de faire du cinéma. C'est pas tellement de... Donc c'est juste un assistant, quoi. Voilà.
Un guide. Tellement...
Oui, la guide, déjà, ça pose que moi, j'indique le chemin. Moi, je n'indique pas le chemin. Pas du tout. C'est eux qui doivent choisir leur chemin. Le chemin.
La direction qu'ils suivent.
Ouais. C'est essayer d'éviter que pendant leur chemin qu'ils tombent dans des caves, mais c'est plutôt de leur éviter des risques. Mais en général, je suis souvent surpris que ce que moi je considère comme des risques, ça arrive souvent qu'ils les surmontent avec une aisance.
Con successo.
Voilà.
Avec du succès.
Voilà, oui.
Et c'est fini maintenant l'enseignement à...
Je le fais de moins en moins, je fais de moins en moins.
Pour être pleinement consacré à la réalisation.
Peut-être c'est un moment comme ça, puis on ne sait jamais, mais ça fait déjà 4-5 ans que je le fais de moins en moins. Je fais des choses un peu plus ponctuelles, même en Italie. Une semaine, parce que ça, aux ateliers Baran, c'était une chose qui m'entraînait beaucoup. Parce que même aller à l'étranger, parce que souvent on allait à l'étranger, on allait dans les pays en voie de développement. Moi, j'avais été avec Riti Pan au Cambodge, avec Catalina Villar en Colombie. Enfin, donc, et chaque fois, c'était comment. Chaque fois, même si c'était un modèle un peu un modèle pédagogique un peu qu'on exportait et qu'on appliquait dans différents pays, mais chaque fois il y avait beaucoup d'interrogations de comment faire, quels sont les choix qu'on devait faire dans l'organisation justement pédagogique pour faire sortir et les renouer. Le savoir des étudiants avec leur tradition du récit. Voilà. C'était parfois le théâtre, parfois le réalisme magique. Voilà, chaque fois c'est autre chose.
Parce que par exemple, Riti Pan au Cambodge, c'était pour enseigner.
Avec Riti Pan, on a créé un enseignant. Moi et lui. On est allés nous les deux, on a créé un premier atelier de jeunes cambodgiens. La plupart des gens, ils savaient déjà un peu, ils savaient déjà filmer. C'était des gens qui avaient été, c'était soit des Russes, soit des Vietnamiens qui avaient été pour. Donc les gens savaient utiliser les caméras, les tables de montage, tout ça, ils savaient un peu ça. Mais ils avaient un problème à
mettre en forme.
à se mettre dans le film.
Ah.
Ouais. Parce qu'ils avaient un peu une idée, très classique, par exemple, du documentaire, de la narration, avec la voix off, avec des images qu'on prenait, et puis on mettait le son après. Voilà, c'est un système un peu totalitaire de narration, si vous voulez. Voilà, il fallait contrôler.
L'école moscovite.
Un peu, et vietnamien aussi. Et donc c'était un peu lorsque.
Austère.
Austère.
Austère, c'était un peu brut par rapport.
Non, ça c'était un peu, c'était contrôlable. Voilà. C'est-à-dire que les gens, il fallait pas les faire parler. Lorsque là, lorsqu'on leur disait, c'est d'aller se confronter, d'écouter, de savoir faire, comme disait Godard, de faire du cinéma avec ce qu'on trouve, pas dans les studios qu'on fait des images et puis on recorde tout après. C'est vraiment avec la pratique du cinéma direct, c'est-à-dire de faire les films dans la situation avec les choses qu'on a. Et ça nécessite d'abord une capacité d'écoute et puis une réflexion sur sa place. Là, il faut décider vite. Et tout ça, ça remue. C'est quelque chose qui est très... C'est très compliqué. Hein. On n'est pas. Quand on. Dans les sociétés dans lesquelles on vous dit qu'il ne faut pas réfléchir, c'est compliqué. Voilà. Et donc, ça a été très important. Et Ritty a toujours dit, et maintenant ça fait un peu de temps que je l'ai perdu, que pour lui, ça a été très important parce qu'il a formé un groupe de gens avec lesquels il a pu. Comment dire, affronter. Il avait déjà fait des films, mais il a dit qu'il a les films qu'il a fait après, dans les formes qu'il a fait, les formes qu'il a traversées, ça a été très utile que ces films-là soient faits avec des Cambodgiens et pas avec des équipes, de l'équipe qui venait de France, par exemple, d'Europe. Donc pour lui, ça a été très important qu'il forme un groupe de gens. Qui l'épaule dans ce travail, qui fait ce extraordinaire travail qu'il fait sur la mémoire.
Alors, Leonardo, quand on est à Ischia, qui est une jolie petite île en face de Naples, comment on s'intéresse au 7e art et quels sont les cinéastes qui t'ont amené à te consacrer au cinéma?
Ah, ça, c'est très compliqué.
C'est le festival de Capri qui se déroule.
Non, pas ça, je crois pas. Non. Moi, je me souviens qu'à Ischia, dans les années 70, il y avait un festival. Il y avait un festival. Mais j'ai commencé un peu là à regarder des films. Mais c'est avec la FA, quand je suis allé à Naples, c'était. C'est vrai qu'à Ischia, en étant dans un lieu touristique, c'est bien parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui viennent c'est comme avoir beaucoup de gens qui viennent dans son jardin et puis là il faut choisir avec qui on a envie de parler et donc ça c'était un peu
Ischia, c'est un décor de cinéma très fleuri
oui ça en a fait beaucoup. il y a eu beaucoup de films qui ont été faits là à l'époque c'était dans les années 50 il y avait beaucoup de stars qui venaient, beaucoup. Mais moi, je ne les connaissais pas. J'étais un petit villageois avec des pantalons troués, en noir et blanc. c'était très bien. Mais c'est une chose qui s'est commencé un peu progressive, un peu qui s'est fait avec la fac, avec etc. Mais c'est un peu, moi, disons que je dois beaucoup à la France, de quelque manière, parce que c'est en France que j'ai commencé vraiment à faire ce métier, à apprendre. J'ai fait des ateliers Baran, j'étais d'abord en Italie, c'était encore quelque chose de très compliqué, il fallait être à Rome, le centre expérimental, c'était quelque chose d'assez fermé, c'était pas très
accessible
pour quelqu'un qui n'était pas forcément qui n'avait pas des liens. Maintenant ce n'est plus comme ça, mais à l'époque c'était un peu comme ça, c'est un peu quelque chose, c'était
cloisonné,
un cercle un peu fermé pour quelqu'un qui venait d'une petite île d'Ischiaque, même si elle est belle, c'est une belle île. Mais c'est quand je me suis parti à Paris, c'est que j'ai compris que c'est une chose, que c'est un rêve que j'avais déjà dans la tête, mm-hmm. et que j'avais même pas osé l'avouer. Mm-hmm. C'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas, on va essayer. Et donc je me suis rendu compte, j'ai rencontré cette école, c'est les ateliers Varan, c'est quelque chose qui est, c'est très bien, parce que tout de suite, on fabrique du cinéma, et on se rend compte
si c'est notre voie ou pas.
S'il y a quelque chose qu'on peut faire, d'abord si on prend du plaisir, mm-hmm. et si on est capable de faire ce qu'on a le désir. Hein, c'est ça un peu l'idée, c'est ça mon parcours.
Bellissimo. Complimenti.
Grazie.
Et là, en début d'interview, on parlait de justement l'Intrusa, qui était donc au Journée cinématographique de Soleure,
oui.
au cinéma du Grütli, qui va sortir sur les écrans en Suisse. Est-ce que là, il y a déjà de nouveaux projets, de l'écriture?
Ah, je suis toujours napolitain. Hein, ah. Donc, parce que...
Napolitain, on parle.
Non, dans le sens que je se travaille sur des choses, mais...
Mais
on ne sait pas. Oui.
Oui,
oui, pour le moment, je ne sais pas encore. Je dois continuer avec la fiction. Mais je ne crois pas. Je sais pas si on est dans une phase encore. On ne sait pas si ces projets-là, ces idées-là, elles vont au bout ou pas.
Ouais, il y a beaucoup financièrement de
choses. Non, même intérieurement. Ce n'est pas tellement des questions de financier. C'est une question de. On a des intuitions et puis il faut. Il faut un peu les développer pour voir si ces intuitions, elles ont...
Aboutir.
Oui. Non, c'est pas... Enfin, pour le moment, j'ai pas de problème. C'est pas encore ce problème-là. Mm. C'est un problème de savoir, c'est des intuitions. J'ai deux idées sur lesquelles je travaille. Mm. Je pense que sont tous les deux... Là, ça nécessite plus de temps. L'autre, c'est beaucoup plus... ces médias, disons, mais il faut les un peu les traverser, quoi. Il faut voir si vraiment ils tiennent le coup, mm-hmm. parce que ça peut arriver qu'au bout d'un moment j'ai dit, mais c'était une fausse bonne idée, il n'y a rien à la fin, quoi. Enfin, c'est mon type de manière de travailler, c'est pour ça.
Et le fait d'avoir été à la quinzaine à Cannes, ça consolide quand même le fait qu'il y a une reconnaissance de la part des producteurs.
Oui, mais ça a été... Oui, bien sûr, être à la gare, oui, ça c'est clair. Mais ça avait été déjà le cas de quand j'avais fait l'intervalle.
L'intervalle.
Comme ça avait beaucoup bien marché avec la presse, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. J'ai touché du bois, on ne sait jamais. Mais...
En Italie, tocca ferro,
sì.
Oui, là aussi.
Hein. Ah, sì, mais...
Alors,
moi aussi, j'attends. Enfin, moi je peux même pas attendre, il faut que je fasse.
Voilà.
Je suis curieux comme vous.
Bocca al lupo.
Merci, grazie. Viva il lupo.
Crespi il lupo.
Viva il lupo.
Viva il lupo.
Viva il lupo.
Merci, Leonardo.
Grazie.